C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, donc Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors notre société a l'art de profiter de tout, même de ce qui est religieux, pour le détourner en fait de son véritable sens. C'est le cas de Noël comme du dimanche. Il est quand même étonnant de voir qu'en France tout particulièrement, on refuse certains faits parce qu'ils ont trait à un événement religieux, mais que les mêmes détracteurs prennent pourtant en congé. Mais bon, mais pire, quand ces mêmes événements sont déformés par des chrétiens, parce qu'ils en oublient le sens profond, alors là, c'est peut-être plus grave encore. Noël, sans conteste, en est un triste exemple. Avec une touche de christianisme, cette date du 25 décembre a été reprise par le pape Libère en 354 pour remplacer la fête du dieu soleil, le dieu de l'Empire romain. Alors oui, pour nous, nous dépassons cette approche simpliste pour retomber dans une autre conception qui n'est peut-être pas beaucoup plus juste, à savoir, nous pouvons fêter la naissance de Jésus sans percevoir le véritable sens de sa venue. Alors ce matin, nous allons nous arrêter plus particulièrement sur l'introduction de l'évangile de Jean, donc ces 18 premiers versets de cet évangile. Nous verrons dans un premier temps les différences avec les autres évangiles. Nous en aborderons ensuite les thèmes principaux. La structure de ce texte vaut la peine qu'on s'y arrête un peu plus profondément et nous terminerons par quelques implications pour nous. Alors d'abord, voyons, survolons, disons, les comparaisons entre les quatre évangiles qui parlent du début du ministère de Jésus. Chacun de ces évangiles poursuit un but différent. Matthieu présente Jésus dans un contexte historique. Jésus est bien né en tant qu'être humain sur la terre, qui a une généalogie qui relie Jésus à David et à Abraham. Puis, à part l'annonce de la conception divine de Jésus, nous le voyons quelques mois plus tard, et non pas 10 jours plus tard, enfin bon, passons, quand il est visité par des étrangers, les mages. Marc, quant à lui, commence par la prédication de Jean-Baptiste, qui est le prophète envoyé pour préparer la venue du Messie, alors qu'ils ont tous les deux 30 ans. Rien sur les 30 premières années de Jésus. Luc, lui, relate la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste, il insiste là-dessus énormément, mais aussi sur la naissance, sur la conception miraculeuse de Jésus. Jean-Baptiste et Jésus sont étroitement liés déjà, dès avant leur naissance. C'est Luc qui s'arrête le plus sur les événements autour de la naissance même de Jésus. Et Jean, quant à lui, commence par révéler qui est celui dont il va parler dans son évangile. L'origine du Messie est éternelle et divine. Voilà le sens de ce prologue, de cette introduction de l'évangile de Jean. Cela, c'est vrai, rejoint le début de l'évangile de Matthieu, qui présente Jésus comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le sens du nom Emmanuel. Jean, donc, veut démontrer qu'il est aussi vraiment un homme, en chair et en os. Et pendant 21 chapitres, il va parler de l'enseignement et des actes de Jésus, le Sauveur, mais cette bonne nouvelle a pour fondement l'affirmation que Jésus est Dieu fait homme. Ses paroles, ses actes sont ceux de l'homme-Dieu, de Jésus le Messie. Alors dans ces 18 premiers versets de l'évangile de Jean, il y a quelques thèmes qui surgissent. Et ces thèmes vont être repris au fil des 21 chapitres de l'évangile, plus en détail. Ces thèmes sont abordés dans cette introduction à travers quelques mots-clés. Faisons un bref aperçu de ces mots, la vie. J'emploie ce mot pour décrire le salut. Par la suite, dans d'autres passages, il rajoutera la vie éternelle. Pour lui, la vie, c'est une dimension qui est différente de l'existence, qui est beaucoup plus que l'existence, et qui a une portée éternelle. Oui, Jésus affirmera, et c'est Jean qui le rapporte dans son évangile, « Je suis la vie », dit Jésus. Un autre terme qui revient souvent, c'est la lumière. La lumière qui s'oppose aux ténèbres, qui symbolise le péché, le mal qui règne dans le monde, mais aussi dans l'être humain. La lumière, quant à elle, est liée à la vie. Oui, Jésus dira au chapitre 8 de cet évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le véritable et la vérité, ces deux mots qui sont assez souvent employés dans cette introduction de Jean. Jésus est celui qui révèle la connaissance la plus profonde de qui est Dieu. La notion de vérité est liée, même si en français ça n'apparaît pas tellement, à la notion de solidité, de fidélité. Jésus affirmera, oui, je suis la vérité. Un mot que qui est quand même un peu difficile à cerner pour nous, c'est le mot la gloire, qui revient à plusieurs reprises dans ce texte. La gloire définit la splendeur et l'honneur qui caractérisent la vie et l'œuvre de Jésus. C'est lui qui est rempli de gloire, la gloire divine. Et c'est lui qui permet aux croyants d'avoir accès à la présence glorieuse de Dieu. La parole, un mot qui qualifie Jésus. Jésus est la parole qui révèle, oui, par son enseignement, la pensée profonde de Dieu le Père. Mais Jean montre que la parole crée. Et c'est lui, Jésus, qui est celui qui est le Créateur aussi, depuis toute éternité dans le passé, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, Jésus dira, « Je suis le pain de vie, celui qui crée la vie. » Le mot « la grâce » revient aussi dans ce texte. La grâce, c'est l'amour sans limite et sans condition que Dieu manifeste. Déjà présent dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la grâce est le but dont va parler le Messie, à savoir que le salut éternel est donné gratuitement et non mérité grâce aux œuvres humaines. Voilà. Mais le mot grâce est lié aussi à un autre mot capital dans l'évangile de Jean, mais déjà dans cette introduction, c'est le verbe croire. Un mot clé dans l'enseignement que Jean veut rapporter. 98 fois, il emploie le verbe croire dans son évangile. Et la plupart du temps, il est employé au temps présent pour mettre l'accent sur la confiance active qu'on manifeste. C'est une confiance vivante en Jésus. Mais voilà, Jean va rapporter au fil de son évangile que c'est l'incrédulité qui est la réponse des hommes, même si une poignée accepte d'avoir confiance en celui qui manifeste la grâce. Alors voilà, tout le plan de Dieu, en fait, est résumé à travers ces quelques mots clés dans ces 18 premiers versets. Je vous propose de nous arrêter un peu sur la structure de ce passage, un peu complexe peut-être, mais qui, je trouve, est tellement riche. Et cela met en valeur, en relief, la grandeur du plan de Dieu. Jean a construit ce passage, il l'a réfléchi, et les idées sont échafaudées d'une manière bien définie, et à la manière non pas moderne dans notre monde occidental, mais selon un principe qui se retrouve souvent dans la Bible, à savoir que le premier et le dernier verset reprennent le même thème. Et le second verset et l'avant-dernier verset reprennent le même terme. Et que le verset central donne l'essence même, le but profond de ce que l'auteur veut donner. Alors, dans ce texte du premier chapitre de Jean, le premier verset, le verset 18, affirme que Dieu le Fils a toujours existé. Jésus, qui est la parole, qui est Dieu, est éternel. Père éternel, disait déjà Ésaïe. Le Père et le Fils sont Dieu, et pourtant ils ne sont pas deux dieux différents. Le Fils manifeste le Père invisible. Les versets 2 et 3 et le verset 17 parlent du fait que Dieu s'est révélé. Jésus est à l'origine de cette double révélation lors de la création de l'univers, de la terre, et la création de la loi aussi. ce qu'il a créé est pour le bien de l'être humain. Éprouve ce qu'il est. Il est amour, vérité, puissance. Les versets 4 et 5 et le verset 16 parlent du but de la venue de Jésus, qui est de communiquer la lumière, la grâce, la vie qui viennent de Dieu. Le but de Dieu est donc de combler l'être humain. Dans l'union avec le Christ, il est possible de recevoir sans cesse l'épreuve de la grâce de Dieu. Versets 6, 7 et 8 et verset 15, il est question là du témoignage de Jean-Baptiste, le grand précurseur qui vient annoncer, qui vient attester que Jésus a été envoyé par Dieu pour que les hommes sachent que la vérité se trouve en Jésus. Le verset 9 et le verset 14. Christ, la lumière et la gloire de Dieu, révèle ce que l'être humain est. Cela parle du péché. Mais aussi ce que Dieu offre. Il est question là du salut que Dieu donne. Mais pour cela, Dieu s'est fait homme. Lui qui était parfaitement Dieu, il s'est fait pleinement homme. En cela, Jésus est unique. Et Jean définit ainsi l'œuvre de Christ. Il s'est incarné en venant sur la terre pour être un homme comme nous. Et le texte nous dit, il a dressé sa tente. Verset 14. Hein? Comme Dieu dans l'ancienne alliance, hein? Qui était présent parmi son peuple à travers le tabernacle. Hein? Eh bien, de la même manière, Jésus est venu habiter parmi nous. C'est lui qui est venu dresser la tente. C'est lui qui est venu, par sa présence, nous relier à Dieu. Le verset 10 est la seconde partie du verset 13 qui parle des affirmations qui soulignent l'intervention de Dieu. Dieu qui crée, Dieu qui recrée. Cela découle de sa grâce. Oui, ce qu'il veut faire, c'est rétablir la relation rompue par l'être humain. Et pour cela, il veut le faire naître à sa vie. Verset 11 et la première partie du verset 13, où il est question de la part humaine. Elle est bien limitée par rapport à ce qu'il reçoit de Dieu. Et de plus, il a refusé ce que Dieu lui offrait, sa présence. Voilà un constat bien triste. Jean constate que Christ, malgré sa grandeur, malgré son don, est rejeté par son peuple même. C'est Dieu qu'il rejette ainsi. Quelle opposition entre ce que l'être humain fait de ce que Dieu lui donne et l'amour de Dieu. Et puis il y a le verset 12, qui est le cœur même du message que Dieu veut nous faire comprendre, veut nous faire connaître. Cet amour a un écho favorable chez certains. Ce sont ceux qui acceptent l'invitation qu'il lance à tous, à ceux qui placent leur confiance en Jésus. Les hommes ne naissent pas spontanément enfants de Dieu, mais ils le deviennent en recevant le cadeau de la nouvelle naissance par la foi. Voilà donc le but de Dieu. Il a tout fait pour le rendre réalisable. Il savait que le salut passait par l'être humain, pour l'être humain, par l'incarnation. Jésus, Dieu fait homme. Et je termine avec quelques implications tirées de ce passage. Eh bien, d'abord, c'est le rappel de la grandeur de Jésus-Christ. Alors, peut-être notre risque, c'est de considérer Jésus, non pas comme le petit Jésus, nous n'en sommes pas là, mais à l'imaginer en fait à notre image, avec notre compréhension. Mais il est Dieu, le Dieu infiniment grand, créateur de l'univers. Il est de toute éternité, en dehors du temps, en dehors de l'univers. Cette prise de conscience sera celle de Thomas, après la résurrection de Jésus, quand il s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce passage nous montre aussi que le but de Dieu est de nous sauver, de nous faire naître à sa vie, en nous permettant de renouer une relation vraie, une relation d'amour avec lui. Ce message de l'incarnation est pour aujourd'hui encore, parce qu'il vient pour donner le salut à ceux qui se reconnaissent perdus. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à être aussi les témoins de Jésus qui est appelé dans l'Apocalypse le témoin fidèle et véritable. Je pense à un de ces témoins qui était François Colliard, qui est parti comme missionnaire en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle. Alors qu'il était dans une mine de diamants, et les diamants les plus recherchés sont les diamants noirs, le directeur lui dit « Vous n'allez quand même pas partir dans cette Afrique noire ?» Et lui de répondre « Je cherche des diamants noirs pour la couronne de mon roi. » Voilà le but du Fils de Dieu en se faisant homme. Nous aussi, par notre témoignage, nous sommes appelés à participer à ce but d'être témoins de Jésus-Christ. Alors oui, le Seigneur veut que nous prenions au sérieux le fait qu'il n'y a pas de salut sans qu'on l'ait accepté. Et pour l'accepter, il faut prendre conscience qu'on a besoin d'un sauveur. Tout comme Marie, la mère de Jésus, qui, avant la naissance de Jésus, loue Dieu en disant « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur ». Elle avait besoin, elle aussi, d'un sauveur. On raconte que l'évangéliste Moody visitait des prisonniers, mais à chaque cellule, il ne rencontrait que des hommes qui clamaient leur innocence. Il n'avait jamais vu autant d'innocents en un jour. Et puis un qui avoue « Je suis terriblement coupable ». Ah, enfin, vous êtes l'homme que je cherchais, dit Moody. Alors il lui annonce le message du pardon et du salut en Jésus-Christ, mais voilà que le prisonnier refuse de prier. Non, ce serait une profanation que de le prier. Alors le lendemain, Moody revient et il rencontre alors ce même homme qui lui dit « Cette nuit, j'ai demandé pardon à Dieu et je connais une joie immense. » Que c'est apaisant de savoir que nous sommes acceptés par ce Dieu qui nous fait grâce. Mais cela n'enlève aucunement notre responsabilité qui est de décider de placer notre confiance en lui. Luther disait « À quoi te sert que le Christ soit né dans une étable il y a si longtemps s'il ne naît aujourd'hui dans ton cœur ?» À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui placent leur confiance en lui, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Au fait, qu'est-ce qui nous donne le plus de joie aujourd'hui, réellement ?